Je voudrais lire un verset avec vous que l'on trouve dans l'épître de Paul aux Romains. Si vous avez une Bible, il devrait être assez facile à trouver. Romains chapitre 15 et le verset 13. C'est une belle prière que vous pouvez formuler pour ceux qui vous entourent. Romains chapitre 15 et verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplissent de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je le redis, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. J'ai pas eu le temps de faire des recherches, mais merci Yannick. Yannick a pu faire des recherches pour moi. On va vous montrer une photo. Bon, c'est un bébé. Vous aviez trouvé. Et la photo d'après? Voilà. Remettez la photo d'avant, s'il vous plaît. Et maintenant la photo d'après. Et encore. Alors, quelle est la différence entre les deux? Non, s'il y en a un blanc et un noir, c'est contre la discrimination. Voilà. Ils pouvaient être tous les deux blancs, tous les deux noirs, c'est pas ça. En fait, c'est ce qu'on appelle la transformation. Parce qu'on a tous commencé comme ça, hein, on a tous été bébés. Et d'ailleurs, vos parents, quand ils vous ont vu beau comme ça, ils vous ont dit « Oh là là !» Qu'est-ce qui va devenir? Qu'adviendra-t-il de lui? Puis les années ont passé, vous avez vécu, et vous êtes arrivé à ça. Et là, on vous regarde et on vous dit, ben, qu'est-ce qu'il a bien pu vivre? Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? On n'a pas choisi, évidemment, le visage le plus marqué, mais dans le fond, on aurait très bien pu prendre un visage beaucoup plus marqué. J'avais été très surpris il y a de nombreuses années, d'avoir voyagé et de me retrouver dans une campagne paumée en Europe centrale, vraiment toute petite campagne, où à l'époque on vivait certainement beaucoup plus de façon rudimentaire que chez nous. Et je me souviens avoir discuté avec une dame âgée et elle me paraissait tellement âgée à cause de ce qu'elle portait sur elle. Ne serait-ce que le visage, ne serait-ce que les mains, on sentait le travail de la terre bien, bien pénible. Et je n'ai pas posé la question, heureusement. Mais en fait, j'ai demandé à quelqu'un de sa famille, et quel âge elle a, la mamie? Et il m'a regardé, il m'a dit 58 ans. Ouais. Et là, on aurait pu raisonnablement se dire, ben, sa vie, elle n'a pas dû être facile quand même. Parce que finalement, on porte les stigmates d'une vie qui est plus ou moins facile, qui est plus ou moins agréable. Et la différence entre l'image d'un nouveau-né, l'image d'un bébé, l'image d'une vieille personne, c'est la transformation. Forcément, parce qu'il s'est passé des choses dans la vie, il s'est passé des situations qui ont fait vieillir plus vite, ou qui ont tracé des sillons dans les corps, dans les visages, dans les âmes même à l'intérieur. Il y a des évidences et j'ai envie de dire que tout cela, si Seigneur nous prête une vie longue, ben ça reste inévitable. Que voulez-vous faire? D'ailleurs, vous imaginez, vous, à votre âge, avec le visage d'un poupon, ça ne le fait pas, quoi. Ça irait pas, il y aurait un décalage, il y a quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Donc ça va avec la vie, évidemment, on sait que c'est inévitable, mais j'ai envie de dire que c'est aussi inarrêtable, autant que c'est imprévisible. D'ailleurs, ça en devient certainement un peu triste et un peu risible, tous ceux qui, les années passant, ne cessent de faire de la chirurgie esthétique. Vous avez vu qu'à un moment donné, ça peut paraître plus beau, mais à la fin, c'est vraiment moins beau, hein. Il eût mieux valu rien faire, certainement, hein, parce qu'on ne sait plus dire à qui on a affaire. Bref, ça peut changer les visages, d'ailleurs, tout cela. Alors, sous les deux portraits qu'on vous a montrés, on aurait pu mettre donc cette fameuse légende sur l'enfant. J'ai hâte de voir ce qu'adviendra, ce qu'il adviendra de sa vie. Et puis, pour la personne âgée, on voudrait aller l'interroger en lui disant, racontez-moi votre vie, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est évident qu'en général, chez nous, la transformation, elle va rarement dans le bon sens. On commence bien et on finit moins bien, en général, ne serait-ce que physiquement, et puis par les expériences de la vie. Mais ce qu'il y a d'incroyable, et c'est le texte que nous avons lu ensemble, c'est que Dieu, lui, est capable de transformer la vie de tout le monde, de n'importe qui, il est capable de le faire. Il dispose de tout pour cela, et ce dont il dispose, ce n'est pas d'un bistouri ou d'un peu de collagène ou d'autres choses comme cela, mais ce qu'il dispose entre ses mains, ce n'est pas superficiel, ce n'est pas non plus un mensonge, mais ça se définit par ces mots dont on a lu les termes dans cette lettre aux Romains. Paix et joie. Il est capable de donner la paix, il est capable de donner la joie. Et je suis persuadé que quand la paix et la joie viennent dans une vie, c'est quand même un moteur de transformation. Et si tout cela est animé par un démarreur qui serait la foi, par exemple, il est évident que ça peut produire de bons, vraiment de bons résultats. Quand vous lisez les évangiles, vous avez quantité d'exemples comme cela. Vous en avez des dizaines d'exemples où eh bien, on rencontre des vies qui ont été transformées, des vies qui ont été changées. Et c'est assez curieux de trouver trois exemples bien distincts dans un seul chapitre d'un même évangile. C'est dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Trois histoires complètement différentes. L'arrière-plan complètement différent, avec des personnes d'âge différent, et là encore, des situations tellement difficiles qu'on a envie de leur dire, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment ça se fait que vous en êtes réduit à cela? Le premier exemple, c'est celui d'un homme, et on a envie de dire que ce qui lui est arrivé, c'était trop violent. Trop violent, on ne peut pas imaginer une telle souffrance se fondre sur quelqu'un de cette manière-là. Je vous raconte en deux mots à quoi il en était réduit. C'était un homme qui a été possédé d'un mauvais esprit, possédé par un démon, même plusieurs d'ailleurs. Et il nous est dit que cet homme avait pris l'habitude de demeurer, de dormir dans les cimetières. Personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Souvent, il avait eu les fers aux pieds, et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les cimetières, dans les sépulcres, dans les caveaux, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Un autre évangile dira que les gens évitaient de passer dans le coin, parce qu'on savait que le fou était par là, on savait qu'il sévissait dans le coin, donc on en avait peur. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver pour que ça se termine comme ça, cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour que sa vie présente ressemble à ça? Il a bien dû avoir un événement, à un moment donné, il a bien dû se passer quelque chose pour qu'il en soit réduit à cela. Sinon, c'est abominable. Vous imaginez si c'était une forme de loterie? Donc, on dirait à un enfant, écoute, profite de tes jeunes années, parce qu'on ne sait pas ce qui pourra t'arriver, peut-être qu'il t'arrivera autant qu'à lui, peut-être même pire. Le jeune enfant va être certainement bien embarrassé, bien troublé, et peut-être qu'il préférera ne jamais grandir, rester un Peter Pan quelque part pour éviter d'assumer si la vie est faite comme cela. Il a dû avoir un événement, il a dû se passer quelque chose. Comment se fait-il que cet homme s'est retrouvé ainsi lié, n'est possédé par tant de démons? On n'a pas l'explication de cela, mais je vois la situation de cet homme et je me dis, mais qu'est-ce que c'est violent? Il y a des circonstances dans la vie, il y a des situations qu'on est obligé de reconnaître comme excessivement violente. Et c'est dur d'expliquer cela. C'est dur de donner une raison à cela. Cet homme hors de contrôle, cet homme devenu fou, hors d'atteinte, si vous voulez, c'est un homme qui, raisonnablement, est perdu. Il n'a aucun avenir. Il est sans espoir. Pour moi, il est détruit. Il est seul. Il est abandonné. Devrais-je dire sans joie, sans paix, la définition du malheureux. C'est quelqu'un qui est complètement malheureux et je ne vois pas, absolument pas, comment il va sortir de cela. Pourtant, On a l'impression qu'il semble, en tous les cas, vouloir s'en sortir. Il semble qu'il veuille s'en sortir, puisqu'il nous est dit que lorsque Jésus est arrivé pas loin d'où il habitait, sur ce fameux pays des Gadaréniens, il nous est dit que cet homme a foncé de la colline où il était et il a couru vers Jésus pour se jeter à ses pieds. On a l'impression que cet homme veut s'en sortir et la bonne nouvelle, c'est que finalement, il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas là une vie normale. On ne peut pas dire de quelqu'un, « Ah, tu as des malheurs, tu as des difficultés depuis ton enfance, ou alors tu n'as cessé d'aller en hôpitaux psychiatriques, eh bien ça ne changera pas, c'est comme ça, c'est ta vie. » On ne peut pas dire cela à quelqu'un, parce que ce n'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Avant-hier, j'avais le coup de fil d'un ami qui me passait le bonjour d'une dame que l'on a connue il y a presque 30 ans de cela. Et lorsque l'on avait connu cette dame, elle doit avoir certainement 70 ans maintenant, entre 70 ans je pense. Lorsque l'on a connu cette dame, elle avait décidé, le jour où elle est entrée dans une église comme ça, elle avait décidé que ce serait le dernier jour de sa vie. Le dernier. Elle avait décidé de mettre un terme à sa vie. Ouais, elle devait avoir pas loin d'une quarantaine d'années. Pourquoi donc ? Parce que ça faisait plus de 15 ans qu'elle passait systématiquement les fêtes, c'est-à-dire la période de Noël notamment et des périodes particulières comme des anniversaires, elle passait systématiquement ces semaines-là dans les hôpitaux psychiatriques, tout le temps. Elle finissait par en sortir, elle revenait chez elle, elle s'occupait de sa maison, elle essayait de gérer ses enfants et dès qu'arrivaient ces périodes-là, elle pétait un câble et elle repartait en hôpitaux psychiatriques. Pourquoi donc ? Parce qu'elle avait deux enfants, un fils et une fille, qui étaient devenus, à l'adolescence, avaient pris de mauvais chemins, étaient devenus toxicomanes, complètement toxicomanes. Et elle avait un mari qui ne gérait pas, absolument pas. Il reportait la faute sur sa femme, d'ailleurs, en disant que si tout avait été de travers, c'était de sa faute à elle, etc., etc., etc. Donc, elle avait essayé de surnager tant qu'elle avait pu, mais elle n'y arrivait plus. Elle n'y arrivait plus, elle en avait marre de cette vie-là, puisque ses enfants étaient pour les deux, déjà pour la fille sûre, déjà séropositive, donc sida déclaré. Et puis son fils vivait dans la rue, il dormait dans des carcasses de voitures, en bas de chez elle. Quand elle le faisait monter à la maison, il lui volait tout ce qu'elle avait pour aller acheter de la drogue, enfin bref, un enfer. Ce jour-là, elle s'est dit, la vie, j'en ai marre. Je veux mourir. Et donc, elle est partie, elle a quitté son HLM. Et c'était un dimanche après-midi. D'ailleurs, ça devait être à peu près dans les mêmes heures. Il faisait bien chaud là aussi. Et elle a décidé de traverser tout le quartier pour aller en direction d'une voie rapide. Et juste à côté d'une voie rapide, il y a le chemin de fer. Donc, elle s'était dit, j'attendrai le train. Et si le train ne passe pas ou elle n'avait pas exactement vérifié les horaires, je me jette sur la voie rapide. Il y avait du passage, beaucoup de passage. J'en ai marre, je veux mourir. Alors qu'elle est en chemin, elle entend des chants. Elle se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Elle le raconte elle-même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle se laisse guider par les chants. Et les chants vont la conduire à quelques centaines de mètres d'où elle était. Imaginez des pâtés de maison. Donc, comment pouvait-elle entendre ? À moins que c'eût été un mariage de Nigérian, mais on ne pouvait pas entendre la musique. Ce n'était pas possible, il n'y avait pas de musique. C'était un mardi après-midi. Il y avait une réunion d'évangélisation, 15 personnes à tout casser. On avait ouvert les fenêtres parce qu'il faisait chaud, il n'y avait pas de climatisation. Et le pasteur s'est poumonné sans musique à faire chanter. Donc, à part au bout de la rue, c'est-à-dire à 15 mètres, on ne risquait pas de les entendre. Sauf qu'elle, elle les a entendus à quasiment 100 mètres. Elle est arrivée dans cette salle, s'est assise au fond. L'évangile a été prêché. À la fin, elle a répondu à l'appel. Et dès que la réunion a été terminée, elle s'est sauvée. Le pasteur a juste eu le temps, parce qu'il était à la sortie, de lui offrir une Bible, et sans savoir qui c'était, son nom, etc. Elle avait passé la réunion avec ses grosses lunettes noires. Et puis, au lieu d'aller en direction de la voie rapide, elle est rentrée chez elle. Et puis, elle s'est assise dans son salon, elle a pris la Bible qu'on lui avait donnée, et elle a ouvert. Et elle a commencé à lire. Et elle a commencé à lire, à tourner les pages, et elle ne s'est pas rendue compte qu'elle a lu jusqu'à 6 heures du matin, de la veille, 5h, 6h du soir, jusqu'à 6h du matin. Elle était incapable de trouver le sommeil sans cacher, évidemment. Et elle était incapable, quand la nuit est arrivée, de ne pas prendre de cachet. C'était l'angoisse du soir, de la nuit, etc., etc. Le matin, à 6h du matin, elle était, vous imaginez, exténuée. Elle a pensé à rien. Elle a juste fermé sa Bible, elle a été se coucher. Elle s'est réveillée des heures plus tard, en pleine forme. Et d'un coup, elle a réalisé, elle a dit, mais il est quelle heure, il est quel jour, qu'est-ce que j'ai... Et là, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas pris de cachet, qu'elle avait très bien dormi, et qu'elle avait l'air d'aller bien. Alors, elle est retournée à l'église, évidemment. Elle est retournée à l'église, et cette fois-là, c'était le dimanche, elle a écouté le pasteur, et puis à la fin, le pasteur a réussi à lui toucher quelques mots, et elle est rentrée chez elle, et elle est revenue, et elle n'a plus jamais quitté l'église. Sa vie a été transformée en l'espace de 1 heure de temps. Transformée. On l'a connue, puisque des années après, nous nous sommes retrouvés là. On l'a connue, cette femme, et elle vit toujours, elle va à Antibes d'ailleurs, elle vit toujours, cette dame. Et quelqu'un me passait son bonjour, il y a quelques jours de cela. Il y a 30 ans, c'était le dernier jour de sa vie. Mais quand Dieu donne la joie et la paix, le malheur s'en va, le malheur disparaît. Pourquoi cette femme a été bénie? Parce que sa condition de vie n'était pas normale. Vous n'êtes pas venu au monde, vous n'avez pas donné la vie à des enfants, vous n'avez pas essayé de construire votre vie pour que votre vie soit un cauchemar continuel. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui a bugué, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette situation-là. Je me dis que la vie de cet homme n'était pas normale. Ce n'est pas normal de vivre comme cela. C'est quelqu'un qui subit, ce n'est pas une vie normale, désirée qu'il est en train de vivre. Alors comment sa vie va changer et comment finalement il va s'en sortir? Par le seul moyen, la seule possibilité qui existait, c'était Jésus-Christ. Quand cet homme va courir vers Jésus, va se jeter à ses pieds, il va y avoir une discussion, un combat entre les forces spirituelles, les forces des ténèbres et la puissance de Dieu. Et Jésus-Christ sortira vainqueur, comme toujours d'ailleurs, et il va ordonner que les démons quittent cet homme. Et cet homme va être instantanément délivré. Quand du village, on viendra pour voir un petit peu ce qui s'est passé au bord du lac. La Bible dit qu'on va trouver cet homme assis tranquillement, alors qu'il n'avait peut-être pas l'habitude de rester calme bien longtemps. Assis, il était habillé, ce n'était pas non plus son habitude. Et puis la chose la plus incroyable, c'est qu'il avait retrouvé son bon sens. Je pense que peut-être... Avez-vous déjà discuté avec des personnes dérangées? Vous savez ce que ça signifie? Quelqu'un qui est dérangé, vous n'allez pas avoir une discussion logique, normale. Ça va être décousu, ça va partir dans tous les sens. Si vous discutez avec quelqu'un qui est profondément angoissé, ce sera pareil. La discussion va être décousue, ça va partir là aussi dans tous les sens. Si vous discutez avec quelqu'un qui est complètement dépressif, la discussion n'ira que dans un seul sens. Vers du négatif et du négatif encore. Cet homme, qui n'avait pas l'habitude d'avoir un tel langage, était d'aplomb. Il avait retrouvé le sens. Finalement, il avait été transformé. Moi, je crois à la puissance de Dieu qui transforme, parce que son histoire, elle était trop violente. Ce n'est pas normal. Une histoire comme cela, eh bien, il vient vers Jésus et Jésus comprend, parce que Jésus connaissait évidemment le cas de cet homme-là. Il est capable d'agir, il est capable d'ordonner. Et il est obéi. Quand Dieu dit quelque chose, il est obéi, entendez bien. Il est toujours obéi quand Dieu dit quelque chose. Et puis l'histoire continue. Au chapitre 5, tout d'un coup, on est en face d'un homme, quand Jésus a retraversé le lac dans l'autre sens, un homme qui vient le trouver. Alors on a l'impression d'être complètement à l'opposé. Là, on a eu affaire à un fou, à un dérangé, à quelqu'un qui, malheureusement, va mal dans sa tête. Il va mal, vraiment mal. Et là, tout d'un coup, on a affaire à un chef d'une synagogue. On imagine quelqu'un de bien, quelqu'un de posé, quelqu'un de respecté, quelqu'un qui, finalement, a pour lui la culture, il a pour lui son passé, il a pour lui son histoire. Et là, on a envie de dire, en discutant avec cet homme, « Raconte-moi ta vie !» Raconte-moi ta vie, enseigne-moi quelques bonnes choses. Ce qu'on n'aurait pas dit au premier d'ailleurs. Mais là, on a envie de lui dire, raconte-moi ton existence. Sauf que cet homme n'a pas envie de parler de lui. Pourquoi? parce que vous le regardez, il est complètement affolé. Vous le regardez, vous regardez son visage, vous saisissez la peur sur son visage, vous saisissez l'angoisse dans son regard. Pourquoi ? Parce qu'il vient de laisser à la maison sa fille, qui n'a que 12 ans et qui semble être à l'article de la mort. À tous ceux qui ont vécu des choses comme cela, on peut imaginer le désespoir, on peut imaginer le bord du précipice, on peut imaginer que si l'enfant venait à partir, ce serait la tragédie ultime, la chose la plus terrible. Donc cet homme vient vers Jésus, il va même se jeter à ses pieds. Qu'importe le regard des uns des autres, ça ne l'intéresse pas. Il va lui adresser cette instante prière. Entendez par là, il va crier. C'est une douleur qui va lui arracher le cœur. Il va crier à Jésus, il va s'adresser à lui en lui disant « Je t'en supplie, ma petite fille est à l'extrémité. Viens, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » L'air de dire « Je t'en supplie, viens et transforme cette situation de mort qu'il y a dans ma maison. Transforme cela. » Sitôt dit, sitôt fait, Jésus prend la route et s'en va avec lui. Il est évident que la mort à 12 ans, c'est quelque chose d'inimaginable, d'insupportable. À 12 ans, on doit vivre. À 12 ans, on veut vivre. En général, un enfant veut vivre. Vous savez que depuis quelques heures, on a entamé l'expédition périlleuse pour sortir ces 12 enfants qui sont coincés dans une grotte. 4 kilomètres par des voies souterraines. On a peur hein, du résultat et déjà quelques enfants sont sortis. Alors, on dira ouf que quand le 12e enfant sera sorti et l'entraîneur avec lui, le 13e, et quand les sauveteurs seront sortis, là on dira ouf, parce que malheureusement, on voit que c'est périlleux, il y a déjà eu un mort, c'est compliqué, mais des enfants, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Et là, depuis des semaines, mais on remue ciel et terre pour les sortir de là, évidemment. C'est tellement cruel lorsqu'un enfant est atteint. Peut-être que les choses les plus difficiles que j'ai eu à faire, c'est d'aller rendre visite à des enfants hospitalisés dans des services de cancer. C'est la chose la plus terrible, même si, évidemment, tout est terrible. Ou alors d'entrer dans une maison où un enfant, un jeune enfant, vient de décéder. C'est abominable. C'est pas mieux hein, quand c'est un homme ou une femme, un jeune homme, une jeune femme, ou alors un homme, une femme d'âge mûr. C'est pas mieux, mais quand même, à 12 ans, la logique veut que la vie soit devant. Forcément, que la vie soit devant. Jaïrus, c'est un croyant, c'est un chef religieux, même si rien ne se mérite. La question se pose bien souvent. Il y a des textes dans l'Écriture qui sont, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, qui sont étonnants. Dans l'Évangile de Matthieu, par exemple, au chapitre 5 et au verset 45, il est dit ceci, en parlant de Dieu, « Il fait lever son soleil » sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Certains pourraient dire, moi je préférerais que le soleil ne se lève que sur les justes. Non, tant pis pour les autres, ils n'avaient qu'à pas être injustes. Sauf que le soleil se lève pour tout le monde, pour tout le monde. Il est dit par ailleurs, dans le livre des psaumes, le psaume 145, notez si vous voulez la référence, psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Proverbe, chapitre 3, verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Et là, vous vous dites, mais je ne comprends pas. Qu'une enfant à 12 ans soit à l'article de la mort, c'est une forme de malédiction. Est-ce que Jaïrus n'était pas bon? Non, c'était quelqu'un de bien. Alors, je ne comprends pas, Seigneur. Tu bénis la demeure des justes, mais comment tu l'as béni? De quelle manière tu l'as béni? Et quand la maison du méchant est maudite, ça veut dire quoi? On va encore dans les psaumes, on trouve un autre passage, c'est le dernier. Du psaume 73, et à partir du verset 2. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. rien ne les tourmente, jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé de bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Et cet homme qui chante cela, commence à prendre envie aux méchants en disant « Si avoir la foi et être croyant m'amène à souffrir et à être malheureux, je préfère être comme mon voisin ou tel autre qui, lui, est loin de Dieu, mais tout va bien pour lui. » La malédiction de laquelle l'Écriture parle n'est peut-être pas que sur la terre, mais elle poursuit l'homme jusque dans l'éternité. Et quelque part, attention à cette malédiction qui pourrait survenir un jour ou l'autre. Jaïrus n'a rien fait de mal, mais ce n'est pas pour autant qu'il mérite le bien, parce qu'on ne mérite rien. Tout est grâce de la part de Dieu. Tout est absolument grâce. Jaïrus a trouvé Jésus, et en trouvant Jésus, tout va s'arranger. Jusqu'à présent, il est tellement angoissé, tellement paniqué en se disant « Mais je ne veux pas qu'elle meure, c'est trop cruel. Si elle meurt, c'est trop dur, c'est trop injuste. » Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui est injuste ? Êtes capable, vous, d'établir un code de ce qui est juste et de ce qui est injuste ? Mais vous allez vous tromper, parce que vous allez réagir par rapport à vos sentiments, vous allez réagir par rapport à l'état de votre cœur et peut-être même par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Combien de jugements ont été contredits en appel ? Est-ce que les premiers s'étaient trompés ? Est-ce que les premiers jurés avaient mal jugé ? Est-ce que les seconds ont bien jugé ou mal jugé ? Allez savoir ! Tout dépend pour l'homme, dans quel état il se trouve, ce qu'il entend, comment il l'interprète. Mais quand Dieu déclare juste, c'est juste. Et quand Dieu déclare injuste, c'est injuste. Et là, la seule chose que l'on peut dire, mais c'est trop cruel, que cette jeune fille meure, ce n'est pas possible. Alors il vient trouver Jésus, et immédiatement Jésus part après lui. Jésus ne lui dit rien, il fait juste que partir après lui. Jésus s'en alla avec lui. Il ne lui a pas dit « T'inquiète pas, je suis là, tout va s'arranger, allez, on y va !» Il n'a pas dit ça. Il entend la détresse de cet homme et immédiatement il suit. Immédiatement il suit. Jésus va perdre du temps en route, et on va s'y arrêter dans un instant. Il va perdre du temps. Je ne vous dis pas dans quel état est Jaïrus. Parce que quelqu'un vient à nouveau interrompre Jésus dans sa course, quelqu'un qui a un besoin aussi, on y viendra. Et pendant ce temps-là, la montre tourne. Et ce qui devait arriver, ou ne pas arriver, est arrivé. Alors que Jésus règle un autre problème, à peine reprend-il la route, que quelqu'un vient trouver Jaïrus en lui disant, « Inutile d'importuner davantage Jésus, ta fille est morte. » Et c'est là que Jésus intervient. Il n'est pas intervenu avant, il ne lui a pas dit « t'inquiète pas, je prends les choses en main ». Il ne lui a rien dit, il le laisse sur ses espoirs, ses craintes, ses angoisses, mais un secret soupir, ça va s'arranger, il va se passer quelque chose. Et là, patatras, il y a tout qui s'effondre. Comment réagissez-vous à ce qu'on appelle chaud, froid ? Comment vous réagissez à ça, vous ? Mal, j'en suis sûr. On préfère que ce soit chaud. Jamais froid. Évidemment, hein. On préfère que les choses soient stabilisées. Sauf que là, ce n'est pas du tout stabilisé. Alors, Jésus est là. Il prend l'affaire en main. Ne vous inquiétez pas. Sauf que l'apparence, quelquefois, nous saisit. Et quand on est confronté à cela, comment vous réagissez ? Ben, il pourrait réagir très mal. Alors Jésus arrête immédiatement toutes les pensées qui viendraient l'assaillir, qui viendraient lui dire « c'est à cause de ce retard, c'est à cause de ceci, de cela, etc. etc. » Et tout de suite, il adresse des mots à cet homme et il lui dit « ne crains pas, crois seulement ». Les 5 mots qui ne sont peut-être pas les plus importants de la Bible, mais qui sont les plus importants pour vous cet après-midi. Ne crains pas, crois seulement. Les apparences ne sont pas trompeuses. Les apparences sont la réalité. Mais ce que Dieu est capable de faire, c'est de transformer la réalité. Il transforme la réalité. C'est pas un magicien. Il ne vous fait pas détourner les regards pour faire un tour de passe-passe. il y a la mort en face. Il y a la mort de cette petite fille qui n'a que 12 ans. Mais Jaïrus a trouvé Jésus. Et si cet après-midi vous trouvez Jésus, la mort va s'en aller et la vie va venir. La mort va s'en aller et la vie va venir. Jésus a, semble-t-il, perdu du temps. Mais est-ce qu'il peut perdre du temps? Il n'est même pas dans le temps. Ça veut dire quoi? C'est trop tard. Il fallait venir avant. Tu n'as pas assez bien prié. Tu n'as pas fait ce qu'il le fallait. Tu n'as que ce que tu mérites. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de mérite. Il n'y a que l'œuvre de Jésus qui déjà là se décline par une œuvre puissante, capable de renverser la mort. Il est entré dans la maison de cet homme. Il a fait sortir tous ceux qui pleuraient. Une foule bruyante était déjà dans la maison. On imagine les uns les autres s'arracher les vêtements, les cheveux. C'est dramatique ce qui arrive. Et Jésus met tout le monde dehors. Quand Jésus vient, les cris cessent. Quand Jésus vient, les pleurs dehors. Quand Jésus vient, la mort est vaincue. Il prend la victoire sur la mort. Et la Bible dit qu'il va entrer dans la chambre où est cette jeune fille avec le papa et la maman. Il va saisir par la main la jeune fille en lui disant « Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Et la Bible dit qu'instantanément la jeune fille a ouvert les yeux, elle s'est assise, elle s'est redressée. Elle avait 12 ans, elle s'est mise à marcher, logique. Elle avait marché avant, elle marchera après. Jésus venait d'accomplir un miracle. Beaucoup diront « c'était trop cruel ». Eh bien, gloire à Dieu. Parce que de l'espoir, quand on a rencontré Jésus au désespoir, quand on a appris que la petite était morte, à la paix et au bonheur, tout a été transformé. Et puis, quel a été donc l'objet de ce retard? Eh bien, c'est une troisième histoire qui s'imbrique dans cette deuxième histoire. Si pour l'homme de Gadara, c'est tellement violent ce qui lui est arrivé, pour l'histoire de Jaïrus, on a envie de dire, mais c'est tellement cruel de perdre un enfant, j'ai envie de dire que pour cette pauvre femme, c'était trop. Quand vous lisez l'histoire de cette femme, vous apercevez que cette femme était atteinte d'une maladie qui, manifestement, semblait incurable depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Et c'est à cause de cela qu'ayant entendu parler de Jésus, elle vint par derrière la foule toucher le bord de son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie ». Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on a bien pu dire quand cette femme est née, quand il y avait ce beau visage, ce bel enfant? Qu'est-ce qu'on a pu dire? Ma fille, longue vie pour toi, heureuse, paisible, tranquille. Et puis un jour, ça a déraillé. Ça a déraillé, le processeur a commencé à avoir des bugs. Et elle est tombée malade. Une semaine, un mois, deux mois, trois mois. Alors on va voir les médecins, on essaye de voir, on prend des traitements, on essaye d'attendre un petit peu. Et puis les choses vont de pire en pire, de pire en pire. 12 ans, j'ai du mal à imaginer, 12 ans. Quand on a mal quelque part, au bout du troisième jour, on commence déjà à s'énerver, parce que c'est trop long. 12 ans. Ça a été certainement l'épreuve peut-être la plus terrible. Ça me refait penser à cette femme qui avait décidé de mourir sous les roues des voitures sur cette voie rapide. Parce que trop, c'est trop, quoi. À un moment donné, vous vous battez. Puis à un moment donné, vous vous réveillez un matin, vous ne savez pas pourquoi, et vous dites « terminé, stop ». J'ai connu quelqu'un comme cela, qui vivait une situation difficile, excessivement difficile. Et voilà comment il définit ce qu'il a fait. Un matin, il s'est réveillé, il a ouvert les yeux, c'était un homme intelligent, et cet homme a dit « maintenant, stop, c'est terminé ». Et de ce jour-là, il a complètement changé de vie, pas sûr que c'eût été meilleur, mais il a décidé de changer de vie. À un moment donné, il y a eu un déclic, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était trop, ce n'est pas une goutte d'eau qui peut faire la différence. Eh bien oui, quand elle vous tombe sur la tête depuis 12 ans, la dernière goutte pèse des tonnes. C'est trop, c'est insupportable. Cette femme, quand on regarde sa situation, C'est terrible parce qu'elle touche le fond. La misère, c'est un point de non-retour. Elle est dans une situation, semble-t-il, incurable. Aujourd'hui, malheureusement, quand certains sont atteints physiquement d'un mal incurable, on dira qu'ils sont au stade terminal. On sait tous ce que ça veut dire, hein. Stade terminal, c'est la fin. On arrive au terminus, c'est fini, la vie s'arrête. La vie s'arrête. Et là, je me dis dans le fond, cette femme, elle va pas bien physiquement, mais je suis convaincu qu'elle va mal moralement. Comment vous voulez aller bien après tout ça? C'est pas possible. Elle doit aller mal moralement. Et que dire de, oui, corps, âme et esprit, tout est sans dessus dessous. Et malheureusement, elle n'a pas de solution. Et j'ai envie de dire heureusement que rien, mais vraiment rien, n'est impossible à Dieu. Heureusement. 12 ans, ce n'est pas une sinécure, 12 ans, c'est quand même énorme. Alors c'est son corps qui s'en va à la mort. J'ose dire que peut-être c'est aussi son âme qui s'en va vers l'enfer aussi. Qu'en est-il de ses croyances? Alors elle croit quand même qu'il pourrait se passer quelque chose si je puis seulement toucher le bord du vêtement de Jésus. Ah, elle a la foi, cette femme. Est-ce quelque chose de nouveau? Est-ce quelque chose qui vient de germer dans son âme? On ne sait pas, mais en tous les cas, c'est arrivé au bon moment. C'est vraiment arrivé au bon moment. Cette femme, elle ne peut pas continuer comme cela. La bonne nouvelle serait la guérison. J'ai envie de dire laquelle de guérison? Physiquement, moralement, laquelle de guérison? J'ai envie de dire ben, la guérison, toutes les guérisons. Apportez-lui tout ce que vous pouvez. Hein. Si vous pouvez la charger de joie et de bonheur, allez-y. N'hésitez pas, elle a du retard, allez-y, chargez. Finalement, certaines personnes qui vont tellement mal se contenteraient d'aller un peu mieux. Je trouve ça dommage. Si vous allez tellement mal, il faut que ça aille tellement mieux. Il faudrait que ça aille tellement mieux. Si vous allez tellement mal, il faudrait qu'il se passe quelque chose pour que ne vous sortiez littéralement du malheur. Pour enfin goûter au bonheur. Parce que si vous vous éloignez un tout petit peu du centre de gravité, du mal le plus terrible, mais que vous êtes encore dans une situation douloureuse, ça sert à quoi? Non, il faut que vous quittiez cette zone-là, que vous en sortiez complètement, et Dieu est capable de le faire. Alors cette femme était perdue pour toujours, et gloire à Dieu, elle va être guérie pour maintenant, et elle va même être sauvée pour l'éternité. Il nous est dit qu'elle va être guérie. Vous vous rendez compte? Après toutes les tentatives, après tout ce qu'elle a essayé, après tout ce qu'elle a espéré, le contact avec Jésus, et elle est guérie instantanément. Je crois à ce contact avec Jésus aujourd'hui encore. Je crois que contacter Jésus maintenant fait qu'on peut être guéri instantanément. On peut être délivré instantanément, et pas que physiquement, mais moralement et spirituellement également. J'ai envie de dire... vous seriez satisfait peut-être de ne plus avoir mal. Mais si Satan était vaincu sur tous les tableaux, s'il perdait sur tous les fronts, ce serait tellement meilleur, tellement mieux. Et oui, et c'est ce qui va se passer. Cette femme va être délivrée. Il nous est dit que quand Jésus va sentir qu'une force est sortie de lui, il va arrêter la foule. Et la femme, toute effrayée, tremblante, va venir annoncer ce qui s'était passé. Et Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvée, va en paix, ta foi t'a sauvé, va en paix. Vous vous souvenez le verset que je vous ai lu tout à l'heure dans la lettre aux Romains, au chapitre 15, vous en souvenez? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Elle l'a manifesté cela. Elle a été remplie de joie, elle a été remplie de paix, parce qu'elle a été à un moment donné remplie de foi, saisir le vêtement de Jésus, saisir la personne de Jésus qui est là pour m'apporter la guérison, la délivrance. Alors ce que Jésus a fait dans ce temps-là, il le fait aujourd'hui autrement, puisque Jésus n'est plus avec nous physiquement, mais il est présent par le message que l'on porte, parce que c'est à la croix du calvaire que Jésus porte les plus belles victoires, à la croix du calvaire. Dans deux textes, il nous est dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 18, « Par une seule offrande, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que nous ne devrions pas nous éloigner et nous devrions plutôt nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur d'être emportés loin d'elles. Car comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Les trois exemples que je vous ai donnés sont des exemples de miracles. Un possédé complètement fou qui revient à la raison, qui est dépossédé de tout ce qu'il habitait, et c'est le Saint-Esprit qui vient faire sa demeure en lui. Un papa qui souffre devant la mort inexorable, lente de son enfant et qui va même apprendre que ça y est, c'est terminé, elle est morte. Jésus va ressusciter cette jeune fille et la rendre à la vie. Et enfin, cette femme qui s'en allait inexorablement, qui glissait inexorablement vers la fin. Elle s'en allait vers une mort certaine. Il n'y avait rien à faire, mais il y a toujours à faire avec Jésus. Et elle a rencontré Jésus et tout a changé. J'aimerais cet après-midi que vous quittiez ce lieu avec la joie et la paix que procure l'espérance que donne Jésus. Il est capable de tout changer. Il est capable de transformer une situation, même si ça fait 20 ans, même si ça fait 40 ans que vous galérez avec ces choses-là. S'il vous plaît, de grâce, comme disait l'apôtre Paul, nous vous en supplions. Croyez qu'en Jésus tout est possible. Croyez qu'en Jésus tout a été accompli. Et soyez réconciliés avec ce message-là. Jésus a tout accompli. La transformation, elle existe. Elle n'est pas académique, elle n'est pas certainement pas superficielle, mais elle est profonde, elle est réelle. Faites cette belle expérience. D'ailleurs, avez-vous remarqué qu'un jour, Jésus guérira un lépreux? Et il y a un détail qui est donné. Pourquoi donc ce détail? Il nous est dit que quand cet homme a été guéri de sa lèpre, sa peau était comme la peau d'un jeune enfant. Comme la peau d'un jeune enfant. S'il fallait en rajouter, cet homme, lépreux, donc crevassé, certainement meurtri, avait fait la guerre, c'était un général. J'imagine pas un général sortir d'une carrière militaire sans quelques marques ici ou là. Ouais. Il y avait certainement quelques marques, quelques plaies, quelques cicatrices, quelques moments difficiles quand il a rencontré Dieu. Tout a été effacé. Sur son corps, ça a été effacé, ça a disparu. Parce que la volonté de Dieu, c'est une vie nouvelle pour vous. C'est une vie nouvelle. Alors soyez bénis cet après-midi et découvrez cette vie nouvelle. Amen. Seigneur, nous venons devant toi et nous comptons sur ta grâce. Comptons sur ta bonté parce que tu es merveilleux. Nous comptons sur ta miséricorde parce que tu es le Dieu de délivrance. Tu es le Dieu fort et puissant. Étends ta main, je t'en prie, et manifeste-toi. Étends ta main et manifeste ta puissance. Quelle que soit la situation de ceux qui sont dans ce lieu cet après-midi, il y a des malheurs, il y a des douleurs, il y a des peines, et qui durent depuis si longtemps. On voudrait dire c'est trop violent, on voudrait dire c'est trop injuste, c'est trop cruel, on voudrait dire mais c'est trop, c'est juste trop dur, trop difficile. Je prie, Seigneur, pour que cette personne soit guérie maintenant. Je prie pour que cette âme soit relevée au nom de Jésus. Je prie pour qu'il y ait un miracle, une délivrance maintenant.